BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour et bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons à Paris pour une fois. À la Climate House, un nouveau lieu qui vient d'ouvrir dans la capitale pour accélérer la transition climatique des entreprises. Philippe Indolbo est sur place pour vous faire la visite guidée et les fondateurs de la Climate House seront en plateau. Puis nous parlerons de décarbonation des entreprises en pleine COP. Est-ce qu'elle joue vraiment le jeu? Est-ce que le climat ambiant, politique, économique, financier est en train de plomber la transition? On verra ça avec deux spécialistes de la décarbonation des industriels, Benjamin Frémaux, président d'IDEX, et Laurent Creff, président de Perfesco. BFM Climat, on y va. Et on part donc pas très loin d'ici, rue du Caire, à Paris, en plein cœur du sentier, découvrir la Climate House, un nouveau lieu qui vient d'ouvrir ses portes et qui veut accélérer la transition climatique des entreprises. Visite guidée des lieux avec Philippine.
Oui Thomas, je me trouve aujourd'hui à la Climate House, au cœur du sentier, ici à Paris, un lieu qui a ouvert ses portes il y a à peu près un mois. Et son objectif, eh bien, c'est d'accueillir les entrepreneurs et les entreprises qui veulent accélérer la transition climatique. Et c'est vrai que quand on arrive ici, dans le lieu dans lequel je me trouve, la première chose qu'on voit, c'est cet espace de coworking où des entrepreneurs se retrouvent pour travailler, pour échanger et pour apprendre. Ces entrepreneurs, d'ailleurs, ils sont tous colocs, c'est en tout cas comme ça qu'on les appelle ici. Et on va aller justement à leur rencontre. Je suis maintenant avec Mathieu Dardaillon, entrepreneur social, co-président de la Convention des entreprises pour le climat et fondateur de Ticket for Change. Bonjour Mathieu. Pourquoi est-ce que vous êtes venu vous installer à la Climate House?
Je cherchais un endroit en fait pour travailler et puis être dans une émulation positive pour en fait trouver des stratégies ambitieuses qui marchent pour nos grands défis de transition écologique et sociale. C'est un lieu qui réunit en fait des associations, des entreprises, des indépendants, des créatifs, des artistes en résidence, donc pour moi il y a des connexions avec des personnes avec qui on va pouvoir travailler ensemble et peut-être faire des projets ensemble. Moi qui crée du contenu, en fait c'est beaucoup d'histoires, je travaille autour des outils pour accélérer la transition, donc il y a comme une émergence ici, une cristallisation de plein de choses, et donc c'est un endroit hyper positif où se passe plein de choses, donc j'ai considéré que c'était l'endroit où il fallait être. Pour un peu ensemble accélérer la transition.
Alors je suis avec Aïna Kairouz, biologiste, ethnobotaniste et spécialisée dans le biomimétisme. Bonjour Aïna. Pourquoi vous êtes venue vous installer à la Climate House?
J'espère pouvoir au quotidien être entourée de personnes qui vont me redonner le droit d'y croire, de me dire que tout va bien se passer, qu'on va trouver des solutions collectivement pour que le monde aille dans la direction dans laquelle on a envie qu'il aille tous. Au quotidien, je suis peut-être moins entourée de personnes positives ou qui ont moins l'habitude d'y croire. Et ici, j'ai le sentiment qu'on a au moins l'espoir que ça puisse un jour donner quelque chose.
Et on a du monde en plateau pour parler de cette Climate House. Vous le voyez à l'image. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Merci d'être
bonjour.
Là. Lucie Bache de Too Good To Go. Nicolas Morbi, bonjour, de Cosétique. Maud Caillot de Gringotte, bonjour.
Bonjour.
Pour les fans de Finances Vertes et d'Harry Potter. Oui, et Claire Breton, une fidèle de BFM Climat, bonjour.
Bonjour.
Merci
Thomas.
D'être là, une fidèle de BFM Climat. Vous étiez venu nous voir avec Underdog il y a quelques semaines. Alors, on vous connaît tous bien sur BFM Business. Merci d'être là cette fois pour BFM Climat. On connaît vos entreprises. Parlez-nous de la Climate House. Vous êtes quatre des cofondateurs. Vous êtes 80. Là, on n'a que quatre chaises. On n'a pas pu faire venir les 80. La prochaine fois, voilà, on va essayer d'avoir un plateau un peu plus grand. En général, c'est pour les soirées Ligue des Champions qu'on est 80. Là, on parle que de climat, pour entre guillemets. Je voulais vous faire réagir au reportage qu'on vient de voir. C'est très intéressant parce qu'on sent qu'il y a une émulation, une énergie, une envie. On sent quand même aussi, je trouve, en tout cas dans le dernier témoignage, un peu d'inquiétude face au climat, parce que ça va pas assez vite, parce qu'il y a de la défiance. Est-ce que cette Climate House, quelque part, c'est un lieu de résistance, Lucie Bache, ou c'est pas le mot?
Je pense qu'on a mis beaucoup de mots sur la Climate House, justement. Et ce qui est génial, je trouve, dans le reportage, c'est qu'on voit que chacun d'entre nous vient y chercher des choses différentes, en fait. Je pense que dans notre transition écologique, on a besoin de tout type d'approche, on a besoin de tout type d'acteurs. Et c'est justement ce qu'incarne la Climate House au quotidien. C'est l'idée d'avoir un lieu commun où chacun d'entre nous peut venir donner et prendre ce dont il a besoin pour continuer sa transformation personnelle et la transformation de son entreprise. Et c'est exactement ce qu'on propose, et c'est pour ça qu'avec les 80 cofondateurs, on est 80 entrepreneurs, et on s'est dit l'économie a un rôle essentiel à jouer pour accélérer cette transition. On en prend acte au sein de la Climate House au quotidien, que ce soit en y venant travailler, en venant assister à une conférence, en venant ramener des collaborateurs de l'entreprise pour vraiment penser la roadmap climat et venir se faire disrupter par cet esprit entrepreneurial qui nous est cher à la Climate House.
Nicolas ?
Complètement d'accord. En fait, comme disait Lucie, en fait, on se revendique pas en tant que sachant, mais plutôt réunis en fait des spécialistes en fait autour de ces sujets. Pour ma part, c'est de l'inclusivité, ouais. L'inclusivité qui, à mon sens, en fait, est compatible avec tous ces sujets de transition écologique. Et comme on l'a vu en fait dans le différent reportage, on voit des personnes passionnées, on voit des personnes qui ont envie d'apprendre, mais qui pour autant ont envie d'être accompagné par d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs. Quoi.
L'un des défis, et sans trahir de secret, qu'on a vu au moment de l'inauguration de la Climate House, ça va être de vous ouvrir en fait, et d'embarquer tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes des pionniers, vous êtes engagés, vous montrez un petit peu l'exemple, chacun avec ses spécificités, c'est important, effectivement, vous ne devez pas tous être des clones. Mais Jean-Marc Jancovici était là, il disait si tous ceux qui veulent faire la transition sont rassemblés à la Climate House, on est mal barré. Sous-entendu, si on n'est que quelques dizaines ou centaines, ça va pas suffire. Comment?
On est toujours mal barré pour
en soi, oui.
On est pas, effectivement, il passe toujours la barre assez haut, mais c'est utile. Non, mais je trouvais qu'il relevait un bon point. C'est-à-dire que comment est-ce que vous faites pour embarquer le plus grand nombre? Parce que c'est ça le sujet à la fois pour la Climate House et pour le climat en général.
Je trouve qu'en effet, il ne faudrait pas ignorer le contexte dans lequel on ouvre cette Climate House. On vient de dépasser un seuil très important dans le climat, le plus 1,5 degré. Mmh. Vient d'être élu à la tête de la plus grosse puissance mondiale, quelqu'un qui, a priori, n'est pas forcément très. Ne serait pas colocataire de la Climate House, en tout cas. les 80 fondateurs de cette Climate House ont justement démontré à travers leur succès d'entreprise, leur succès entrepreneurial, il y a des licornes, il y a énormément de gros success stories, que justement, il y a un avenir viable à toutes les idées que nous portons et il y a des réponses à apporter à des personnes qui peuvent aujourd'hui se trouver être très soit anxieuses soit un peu perdues face à cette situation. Donc mettre toutes ces personnes ensemble, mettre des personnes entrepreneurs qui par définition sont là pour surtout chercher trouver des solutions, ouais. Et les personnes qui cherchent à trouver leur place dans la situation actuelle et comment est-ce qu'elles peuvent aider et comment est-ce qu'elles peuvent vraiment apporter leur pierre à l'édifice, c'est justement ce lieu-là qui va toutes les réunir.
Et alors, vous voulez aussi accompagner des grandes entreprises à la Climate House pour les aider justement à faire leur pivot climatique. On voit ça avec Philippine.
La deuxième partie de la Climate House, c'est le programme d'accompagnement des grands groupes. Pour qui, c'est vrai, ça peut être un peu plus difficile que pour une start-up de bouger et d'enclencher son pivot climatique. Alors, qu'est-ce que la Climate House propose très concrètement à ces grands groupes pour les accompagner dans leur transition climatique? On va voir ça tout de suite avec Maë Canuti et Henri-François Martin, co-directeurs généraux de la Climate House.
C'est des structures à qui on propose, par exemple, au directeur RSE, d'avoir un bureau avec les colocataires. On les oblige aussi à venir chez nous pour faire leurs réunions, par exemple. Des réunions qu'on accueille et surtout qu'on accompagne avec tout l'écosystème de partenaires qu'on a. Donc ça peut être une animation de COMEX, ça peut être la création de groupes de travail de parties prenantes. Donc voilà, donc c'est vraiment, ils vivent notre quotidien dans notre écosystème.
Les acteurs corporate qui viennent nous voir et qui veulent adresser des projets très concrets ont cette volonté d'aller plus vite et notre valeur ajoutée en tant que de confiance, c'est vraiment d'apporter cette culture entrepreneuriale axée sur le fait de porter ses projets, pas simplement avec sa propre équipe, mais dans une logique d'infusion, comme disait très bien Maïka, avec potentiellement des acteurs qui font partie de leur industrie, mais aussi potentiellement d'autres qui viennent d'industries différentes, qui ont leur propre vécu sur des problématiques parfois similaires. Et donc notre enjeu, c'est de convaincre l'ensemble de ces acteurs qui viennent nous voir et qui sont de plus en plus nombreux, qu'ils auront la capacité d'aller beaucoup plus vite dans l'atteinte de leurs objectifs à partir du moment où ils s'inscrivent dans un collectif.
Alors, pas de langue de bois, est-ce que les grands groupes ont entendu parler de vous? Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils viennent vous voir? Claire?
Oui, les grands groupes ont entendu parler de nous, ils viennent nous voir, ils ont aussi besoin de venir nous voir. Nous, on a besoin aussi d'avoir les grands groupes dans notre écosystème pour accélérer cette transition. Cette transition, elle ne se fera pas sans eux. Donc nous, on les écoute et on les accompagne avec des programmes sur mesure pour les aider sur ces sujets-là.
Ça les intéresse, mais est-ce que vraiment, donc ça y est, il y a des groupes inscrits chez vous?
Ouais. Le premier, ils arrivent tout le COMEX du groupe LCL qui sera là avec nous le 5 décembre. Et l'idée, c'est vraiment effectivement de venir faire les ponts en fait entre l'écosystème climat qu'on connaît bien, qui a tout un tas d'idées en fait pour arriver à des solutions, et les grands groupes historiques dont on a besoin effectivement pour accomplir cette transition tous ensemble, qui ont l'intention d'accélérer leur transformation, mais qui ont besoin aussi d'être au sein d'un écosystème comme celui de la Climate House pour la réussir et pour la faire le plus vite possible et la manière la plus grande possible.
La plus grande possible.
Oui, je veux juste rebondir par rapport à ce que Lucie.
Votre secteur, la finance, là, pour le coup.
Oui, non, mais on répète souvent qu'on a besoin d'eux pour faire la transition, mais n'oublions pas aussi qu'ils ont besoin, eux, de faire leur transition. Parce qu'aujourd'hui, les prix dans les énergies fossiles, ça coûte toujours plus cher, c'est plus compliqué. Il y a une question de souveraineté aussi énergétique. Les matières premières, comment est-ce qu'on va traiter le plastique ou toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui pas forcément bonnes pour la biodiversité et plus largement pour le climat. Donc, c'est aussi des sujets très stratégiques pour ces entreprises qui viennent pas juste à Climate House pour faire joli et parce que c'est sympa de mettre du vert sur leur rapport. C'est aussi fondamental pour elles, d'un point de vue stratégique, de s'y mettre, et elles viennent trouver des expertises et des visions qui sont différentes que ce qu'elles ont chez elles.
Ouais. Et une programmation, visiblement, c'est le dernier point que vous proposez à la Climate House, des événements autour du climat. On retourne une dernière fois sur place avec Philippine pour voir de quoi il s'agit.
La dernière chose qui se passe à la Climate House, ce sont des événements, des conférences et des ateliers en lien avec la transition. Bref, vous allez le voir, une programmation climatique qui débarque aujourd'hui avec la visite du mouvement patronal Impact France qui vient former les entreprises et les colloques de la Climate House à son Impact Score. On va en parler d'ailleurs tout de suite avec Magali Le Retail, chargée de l'Impact Score justement chez Impact France.
Dans le contexte actuel qu'on connaît tous, il y a vraiment un enjeu très fort d'embarquer l'ensemble du monde économique et des entreprises sur les sujets de transition sociale et environnementale. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'outiller toute structure qui souhaite engager une démarche et progresser sur son impact. Enfin, c'est un référentiel qui a été construit pour être aussi très adapté aux TPE-PME qui sont parfois dans l'ombre des grands référentiels, des grands labels classiques. Et là, vraiment, c'est un outil qui est construit aussi pour être pertinent et adapté à leur propre réalité. Donc, on a vraiment eu la volonté d'avoir un diagnostic qui marche à la fois pour des grands groupes, à la fois pour des TPE-PME et pouvoir permettre au monde économique de se comparer et d'avancer ensemble.
Alors, d'un mot, parce qu'il nous reste déjà plus qu'une minute, Nicolas, expliquez-nous cette programmation. C'est accessible à tout le monde. Si j'ai envie d'y aller, si les téléspectateurs de BFM veulent y aller, c'est ouvert ou c'est que réservé aux colloques, puisqu'on a appris ça, donc vous appelez ça les colloques, ont accès à cette programmation.
Comme son nom l'indique, c'est une maison. Donc l'idée, c'est d'accueillir les personnes, en tout cas, qui ont envie de faire cet effort, cette transition. Là, c'est hyper intéressant parce qu'on parlait d'impact score. En fait, l'impact score, c'est typiquement en adéquation avec les valeurs de la Climate House, cette remise en question et se dire, tiens, on n'est peut-être pas parfait, mais on a envie d'avoir les points sur lesquels on peut s'améliorer.
Ouais, ouais.
Et c'est pour ça, en fait, que c'est plutôt pas mal, en fait, en tout cas, cette transition avec...
mais donc, la maison est ouverte. Si on veut y aller, on peut venir.
La maison est ouverte, ouais, bien sûr.
Et peut-être un mot, on a 150 événements qui sont prévus chaque année, donc vraiment n'hésitez pas à nous suivre, il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre à la Climate House.
Quasiment tous les jours. Et le message est passé, merci beaucoup à tous les quatre, Lucie Bache, Too Good To Go, Nicolas Morbi, Cause Éthique, Maud Caillot, Gringot, Claire Breton, Underdog, 4 des 80 cofondateurs de la Climate House. La prochaine fois, promis, on sera en P1, le plateau géant de BFM. Allez, on continue d'accélérer la transition avec deux spécialistes de la décarbonation des grands groupes industriels qui viennent nous rejoindre en plateau. Les industriels vont-ils vraiment drastiquement réduire leurs émissions de CO2? Est-ce que les entreprises, pour faire simple, jouent le jeu? On se pose la question évidemment en pleine COP et on en parle avec deux dirigeants confrontés au sujet au quotidien. Benjamin Frémaux, président d'IDEX, et Laurent Craïf, président de Perfesco. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être en plateau. Vous êtes tous les deux des spécialistes de la décarbonation des grands groupes industriels. Je commence avec une question toute simple, un peu cash. Comment vont les affaires, Benjamin? Parce que le climat ambiant entre le retour de Trump, la crise dans l'industrie, les contraintes budgétaires, j'imagine que ce n'est pas hyper porteur, non?
Non, mais chez IDEX, on ne travaille pas au mois ou à la semaine, on travaille sur plusieurs années. Et la tendance de la décarbonation, ce n'est pas quelque chose qui va s'effacer avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc les affaires sont plutôt bonnes, même si on aimerait plus d'allant, plus de soutien gouvernemental et plus d'action, plus de projets de la part des industriels qui, d'une manière ou d'une autre, devront se décarboner.
Ils devront se décarboner, mais alors, même question chez vous, qu'est-ce que vous voyez dans votre carnet de commandes? Les clients, ils réduisent un peu la voilure en ce moment? Au vu de la conjoncture, on ne peut pas faire fi de la conjoncture.
La conjoncture c'est ce qui drive le quotidien. Ce qui drive notre action à nous, et je rejoins ce que dit Benjamin, c'est une tendance de fond qui est la décarbonation. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou un truc hype. La décarbonation, c'est une nécessité pour les industriels. Mmh. Et pas que pour eux. Leurs investisseurs, pour une bonne partie d'entre eux, disent « s'il n'y a pas ça, nous, on ne viendra pas mmh. ». Et il y a des clients dans la grande, distribution, des clients individuels qui disent « moi, je veux que mes produits soient verts ». Partant de là, bah, y a ceux qui le feront et ceux qui ne le feront pas. Mais ce n'est pas drivé par l'actualité ou la conjoncture, c'est une tendance de fond.
Non, non, bien sûr, mais tous ces éléments-là externes, ils pèsent quand même sur le rythme des investissements, sur le tempo. Est-ce que vous constatez, vous, là, en ce moment, un petit creux de la vague ou est-ce que, en fait, ça arrive à rester hermétique au vent contraire ?
Alors, on a deux types de clients. Il y a les clients qui, contre vents et marées, font avancer leur projet de décarbonation et avec eux, on poursuit et à bon rythme. Et
puis, il y a des clients en particulier qui résistent contre vents et marées ou...
bah, typiquement, dans l'agroalimentaire, ça marche très fort. Comme Laurent l'a dit, il y a un très gros besoin de décarbonation aussi pour une question d'image B2B2C. Mm-hmm. B2C.
Ouais.
Donc ça, ça ne s'arrête pas. Et puis, il y a des clients industriels qui, dès que les nuages s'amoncellent, sont un peu plus attentistes, préfèrent attendre avant de passer à l'accélérateur.
Vous pensez à quel secteur?
Bah, tous les secteurs qui sont soumis à une concurrence internationale très forte et pour qui les investissements sont une décision, on va dire, potentiellement problématique. Donc des secteurs plus traditionnels, l'industrie plus traditionnelle.
Ouais.
On a vu ce que ça pouvait donner dans certains secteurs, type chimie, type ouais. ou autre, où là, chaque projet est en soi un problème, même si nos sociétés, IDEX en l'occurrence, peut porter les investissements pour le compte de ses clients.
Ouais.
Mais malgré tout, on peut se sentir un peu d'attentisme pour certains types de clients qui n'aiment pas voir les nuages s'amonceler au-dessus de leur tête.
Et alors, Laurent Craïf, qu'est-ce que vous pouvez faire pour dégager les nuages ?
Nous, ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on a créé Perfesco il y a 10 ans, c'est qu'on accompagne nos clients et on prend le financement à leur place. Typiquement, dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, les clients se disent « est-ce que je serai là dans 5 ans ?» Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre mon argent sur ce projet de décarbonation plutôt que sur cette ligne de production ? Et nous, ce qu'on leur dit, c'est conservez votre argent pour faire vos projets vitaux pour vous. Et nous, on va investir à vos côtés pour porter ces montants d'investissement nécessaires à la décarbonation. Et donc, on les finance. Ils ne financent rien. Et on se paye à partir des économies de services, enfin des économies d'énergie qu'on a générées chez eux. Donc nous, même dans une conjoncture, et a fortiori dans une conjoncture un peu délicate, on est là pour accompagner nos clients
délicate,
là-dessus.
Là, on en est à parler de l'avenir de l'industrie européenne. C'est plus que délicat, là. C'est le décrochage et le déclassement du continent. On voit bien que les patrons, enfin c'est très compliqué, ils doivent investir dans l'avenir, résister à la concurrence. Il y a des aléas politiques, enfin c'est compliqué. Quoi.
C'est vrai. C'est
un client, il doit vous le dire.
C'est vrai, c'est un contexte qui est difficile.
Parler de la chimie, l'automobile.
Ce qui rend le contexte est difficile. Et un certain nombre de clients se disent, est-ce que je serai là dans 10 ans ? Nous, et encore une fois, quand je dis nous, Perfesco, c'est pas nous tout seuls, IDEX dit la même chose. On voit qu'il y a des gens là-dedans qui vont faire le dos rond, passer un peu et puis s'adapter. Parce que dans la vie de l'industrie, des crises, il y en a. Et celle-là fait partie des crises. Et donc, il faut avoir en tête qu'il y a probablement des industriels qui ne passeront pas l'étape, qu'il y en a beaucoup qui vont réussir à s'adapter comme ils l'ont fait les années précédentes, et qu'au milieu de ça, il y a des solutions pour les aider à investir, et nous, on en fait partie. Mais je vous rejoins, c'est une crise qu'on vit en ce moment, qui n'est pas nouvelle, elle sort de la suite du Covid et d'un certain nombre de choses, mais elle se matérialise maintenant, on la voyait il y a quelques mois, mais elle se matérialise maintenant, et il faut aider les industriels à passer la vague, ce qu'on est en train d'essayer de faire.
Benjamin Frémaux, l'industrie, je rappelle, l'objectif doit réduire ses émissions de 30% d'ici à 2030. Les projets sur lesquels vous bossez très concrètement, ils sont à la hauteur de cette ambition ?
Ah ben, enfin, en tout cas avec les clients...
On n'y est pas encore, non, mais c'est colossal 30%.
Alors, il y a plusieurs choses. Les projets qu'on finance... qu'on conçoit, qu'on construit pour le compte de nos clients, c'est des projets qui leur permettent des abattements jusqu'à 80% de leurs émissions de CO2. Donc il y a des solutions qui existent.
D'accord.
Ça peut être de la biomasse, ça peut être de la pompe à chaleur haute température. Il y a plusieurs solutions techniques qui existent et qui permettent des taux d'abattement très conséquents, qui permettent grosso modo de se passer du gaz, si ce n'est pour la pointe ou pour le secours.
D'accord.
Donc ça existe. Encore faut-il avoir... prendre le temps et avoir l'envie de rapidement se décarboner, parce qu'encore une fois, on est dans une crise un peu particulière où on a connu le Covid, on a connu la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, on a connu des prix des énergies, que ce soit de l'électricité ou du gaz, extrêmement élevés, et on est dans un moment où il vaut mieux investir maintenant pour se s'immuniser complètement de cette volatilité des prix d'énergie et pouvoir franchir plus facilement les prochaines crises, plutôt que d'attendre en pensant qu'en faisant le dos rond, le problème ne reviendra pas.
Ouais, mais encore faut-il être capable de se financer. Alors, vous proposez des solutions de financement. Mais on voit bien, la semaine dernière, à votre place, j'avais deux investisseurs, justement, Adrien Couret d'AEMA Group et Philippe Zawati-Mirova. Et alors, là-dessus, on ne sait plus qui croire, parce que, pour faire simple, le monde de la finance dit « moi, je veux bien investir, mais je n'ai pas de bon projet à financer ». Et à l'inverse, les industriels disent « je ne trouve personne pour me financer ».
Alors, je pense pas que ce
oui,
soit
la vérité.
Je pense pas que ce soit le cas. Alors, nous, typiquement chez IDEX, en 2017, on déployait 50 millions d'euros sur les projets de décarbonation du territoire et de l'industrie.
Ouais.
L'an prochain, on va déployer, on va sortir près de 400 millions d'euros.
Okay.
Donc, des projets, il y en a, c'est très clair. Et on a inauguré des usines pour Bell, pour Le Safre, pour Bonduel ces deux dernières années. Donc, il y a vraiment des acteurs qui prennent le taureau par les cornes, qui font des projets et des projets qui peuvent être conçus, financés et ensuite opérés sur la durée par des opérateurs énergétiques comme nous. Mmh. Donc ça, ces projets existent. Encore faut-il avoir un minimum de visibilité pour les sites concernés, et puis surtout avoir l'envie. Il faut du temps du côté de l'industriel pour préparer ses projets, préparer un appel d'offres. Ouais. Enfin, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est ça.
Structurant. Ouais. Laurent Craïf.
Il y a un deuxième point, je rejoins Benjamin. D'une part, il faut que les industriels aient envie. Et ça, ça se décrit.
Est-ce qu'une majorité a envie? On n'y est pas encore. Est-ce que ça reste une minorité, les gens accompagnés?
Ça dépend jusqu'à quel niveau de l'entreprise vous descendez. Quand vous parlez au CEO, lui, il a envie et il vous le dit chaque matin.
Tous les CEO ont envie et vous le dites chaque matin?
Oui.
D'accord.
Après, quand vous allez dans les équipes, ben, en fait, ils ont envie de remplir leurs objectifs. Ouais. Et dans leurs objectifs, il y a une pondération entre faire tourner la boutique et décarboner. Et donc, suivant où les curseurs ont été mis, ils ont plus ou moins envie d'y aller. Ensuite, il faut du temps. Même si ils ont recours à des solutions comme ce que peut faire Benjamin ou ce qu'on peut faire chez Perfesco, qui consiste à dire on prend le temps de mettre les ressources, de mettre le financement, etc. Il faut quand même qu'ils y passent un petit peu de temps pour initier le projet.
Bah oui.
Et ça, c'est du temps qu'ils ne consacrent pas à faire autre chose. Mmh. Donc, on peut leur enlever les 95% du temps qu'il faut, mais il faut quand même qu'ils en mettent un peu.
Ouais.
Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez sur les financiers, un financier, par nature, il a envie d'un projet, et c'est normal quand on est financier, qui est plutôt dérisqué. Une centrale solaire, une centrale éolienne, qui sont des projets construits, ça tourne, on sait ce que c'est.
Mmh.
Dans les métiers qu'on fait dans la décarbonation, il y a plusieurs risques qu'on est capable de gérer. Est-ce que le projet va tourner? Est-ce que la performance va être au rendez-vous? Est-ce que un certain nombre de choses vont se passer comme on a envie? Et c'est des montants d'investissement qui sont disponibles plutôt auprès d'investisseurs spécialisés qui sont des sociétés qui font à la fois le projet et l'investissement, ce que peut faire IDEX, ce qu'on fait chez Perfisco, qui sont parfois un peu moins disponibles de manière évidente chez des financiers classiques qui attendent que le projet soit totalement réalisé pour venir à la fin et dire « Ok, je refinance ».
Très intéressant. Le mot de la fin, parce qu'on a déjà fini ce plateau, je vous invitais en pleine COP, la COP, ça compte pour vos clients? Ou alors c'est vraiment pas du tout le sujet, quoi?
Pour
c'est
moi,
du théâtre pour eux, quoi.
C'est pas forcément du théâtre, mais on a besoin que le narratif au niveau global aille dans la bonne direction. Qu'il aille dans la bonne direction au niveau mondial, qu'il aille dans la bonne direction au niveau national. Ça, pour eux, c'est très important. Parce qu'encore une fois, ça conditionne la pression que vont avoir ces industriels de la part de leurs salariés ou de leurs prochaines recrues, de la part de leurs financeurs, ça a été dit par Laurent, et de la part, troisièmement, et peut-être le plus important, de la part de leurs clients.
Mmh.
Hein, si ce narratif change, est amené à évoluer, à ce moment-là, les industriels peuvent vivre la pression très différemment.
Bon, intéressant, la COP, c'est une vague, il faut qu'elle soit bonne pour qu'on puisse surfer dessus. En résumé, merci à tous les deux pour votre témoignage et votre franc-parler. Laurent Craïf, patron de Perfesco, et Benjamin Frémaux, président d'IDEX. C'est déjà la fin de BFM Climat. Merci à la CEC pour son aide précieuse, comme toujours, dans la préparation de cette émission. Et bien sûr, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec Antoine Pélion, le secrétaire général à la planification écologique, qui nous accueillera à Matignon. Et ce sera aussi le grand retour d'Antoine Poincaré pour son journal du climat. D'ici là, on garde contact sur l'appli BFM Business, en replay, en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.